dans le rétro.
Bienvenue
dans le rétro.
Attachez votre ceinture.
Déborah Grunwald.
Salut à tous, merci de passer le week-end avec nous sur France Bleu. C'est l'heure, comme chaque semaine, de partir en balade à travers le temps. Dans le rétro, c'est un voyage au fil des souvenirs et de la carrière d'un invité. Celui qui nous accompagne aujourd'hui est un grand acteur qui n'hésite pas à se mettre en danger, à en juger les rôles qu'il choisit et les films dans lesquels il a tourné. Il chante aussi et en ce moment, il est sur les planches du Comédia Théâtre Libre à Paris dans la pièce de Molière, Le Misanthrope. Bonjour Lambert Wilson.
Bonjour.
Alors, pour se rafraîchir la mémoire pour ceux qui ont laissé de côté Molière sur les bancs de l'école, et ils sont nombreux. Le misanthrope, c'est Alceste. Il déteste l'humanité, les mondanités, les privilèges. La pièce a été écrite en 1666. À l'époque, c'est Molière qui avait le rôle principal. En 2019, donc, c'est Lambert Wilson. Ça fait quoi ?
Ça veut dire surtout que la pièce continue à parler au public moderne, qu'elle a parlé des travers de l'humanité pendant des siècles et qu'elle continue à nous interpeller parce que on a encore des raisons de se dire tous les jours, il y a de l'injustice, il y a de l'intérêt, il y a de la trahison, il y a de la flagornerie. C'est assez passionnant, surtout dans une époque où on remet en question beaucoup la classe politique, par exemple. La pièce est éternelle.
Alceste fréquente un salon à l'époque, c'est là que la noblesse se retrouve. C'est le reflet de la cour, hein, avec la même hypocrisie, les rumeurs, les rivalités. C'est un peu ce qui se passe, vous venez de le dire, en politique par exemple. Le cinéma aussi quand même.
Alors j'ai pas mal de cartouches que je réserve pour la pièce qui sont liées dans mon imagination au monde du cinéma, aux paillettes, aux festivals, à toute cette hypocrisie... Et les gens se mentent énormément dans ce milieu-là.
Vous aussi ?
Non, moi, alors,
comment vous vous situez ?
J'ai l'impression d'en être victime.
À tout ça.
Alors moi, je suis très, très Alceste, je suis un peu sur mon rocher à regarder ça de loin. On me le reproche d'ailleurs, souvent les gens me trouvent distant. Mais chez moi, c'est aussi de la timidité, c'est du mal avec le groupe, d'une manière générale.
Mais comment vous faites quand vous êtes comme ça, justement, au théâtre avec une troupe en plus ? Il y a quoi ? Il y a une dizaine d'acteurs
autour de
vous ? On est
très sur le plateau. En fait, c'est différent quand la masse de la foule, les gens sont devant vous, il y a des lumières qui vous aveuglent, c'est plus abstrait.
Mais dans la troupe ?
Alors en fait, une troupe, c'est un microcosme comme sur un radeau, voilà, en pleine mer, ou un bateau, tout simplement. Il faut absolument que l'ambiance soit bonne, que les gens se respectent. S'il y a un petit trou dans la coque, le bateau va couler.
Et puis on peut en foutre aussi par-dessus bord. Hein.
Oui, c'est pour ça que je veille au grain. Pour moi, c'est fondamental qu'une équipe se parle, qu'il n'y ait pas des petits clans.
Qu'est-ce qui fait qu'en 2019, on a envie de jouer cette pièce ?
On a envie de jouer cette pièce, d'abord parce que je n'avais pas fait théâtre depuis longtemps, aussi parce que c'est un rôle tellement complet qu'il contient plusieurs rôles, quitte à faire un retour sur scène, autant que ce soit avec un bel os à ronger. Et puis aussi parce que je pense que ça fait partie des chefs-d'œuvre de la langue française. Il y a des questions qui sont posées, qui sont toujours des questions d'actualité sur la nature humaine. L'amour aussi. Pourquoi est-ce qu'on tombe amoureux des gens ? Et pourquoi est-ce qu'ils vous font tant souffrir ? Et pourquoi est-ce qu'on veut les changer ? Et toutes ces questions éternelles, qui avaient été vraiment tellement bien observées par Molière, valent la peine d'être remontrées au public contemporain.
Ça peut paraître complètement naïf, voire débile, la question que je vais vous poser. Mais rien que d'apprendre le texte en vers d'un auteur classique tel que Molière, pour une pièce qui dure, je crois, 1h50, ouais. Je trouve ça bluffant déjà.
Je pensais que ça serait plus facile et je dois dire que j'ai eu du mal parce que il y a 780 vers en alexandrin rimé, mais c'est pas tellement ça, c'est surtout que c'est un langage qui est très sophistiqué, un peu tordu par rapport à notre époque, tout est inversé en permanence et j'ai cru que j'étais devenu très vieux.
Le Misanthrope, c'est au Théâtre Libre en ce moment à Paris, mise en scène Peter Stein. Lambert Wilson, vous êtes prêt pour voyager dans le temps ?
Je suis très impatient même.
Alors allez-y, appuyez sur le bouton, c'est vous qui déclenchez tout ça. Nous sommes le 3 août 1958. Vous naissez à Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine. Georges, votre père est comédien et metteur en scène. Pendant qu'il est dans la lumière, votre mère, Nicole, est discrète et fuit les projecteurs. Il paraît que l'enfance a été un moment de souffrance pour vous.
Pas que de souffrance. Il y avait énormément de chaleur, de joie, de jeux, de campagne, de grands-parents géniaux. J'étais le numéro 2. J'ai un frère plus âgé. Mon frère était vraiment le frère préféré, mais objectivement, même
c'est vrai,
des
parce
adultes.
Que souvent, c'est le deuxième qui est un peu chouchouté.
Moi, j'ai été chouchouté par ma mère qui devait un peu rattraper les choses. Et donc, comme nous étions ensemble dans la même chambre, et ça jusqu'à l'âge de 12 et 13 ans, ce qui était quand même assez avancé, j'ai eu l'impression de ne jamais être à la hauteur, de toujours être un peu le vilain petit canard boiteux, et je pleurais tout le temps. Mais je pense que j'ai souffert d'avoir été considéré comme un jumeau, finalement. Or, j'étais plus petit, et toujours plus faible et plus lent et moins sportif.
C'est vrai, votre père n'a jamais été capable de dire que ce que vous faisiez, c'était bien.
Il l'a dit tardivement.
Trop tard ?
Oh, ce n'est jamais trop tard, je pense, pour le dire. Il l'a dit avec ses mots. Il avait du mal, surtout en public. Voilà, c'est difficile pour une personnalité connue, et il était connu et respecté, de partager son espace public avec un fils. Et surtout, il ne savait pas comment s'y prendre pour s'exprimer devant d'autres personnes.
Oui, mais ça, il vous le dit face à vous. Il n'y a pas besoin d'avoir d'autres personnes autour pour le dire.
Et à ce moment-là, quand on était dans le privé, il redevenait un petit peu pudique et fermé. Ce qui fait qu'en fait, finalement, ne sortait que la critique, et à ce moment-là, elle sortait en public. Mais en même temps, il y avait une fierté mélangée à de la peur. La peur, c'est celle d'un parent qui se dit, est-ce que mon fils va se casser la figure? Est-ce que je vais être entaché par son échec? Est-ce que tout ça va être embarrassant pour tout le monde? Donc, pendant des années, il n'a pas été très rassuré. Je travaillais, mais il n'était pas convaincu que j'étais fait pour ce métier.
Vous êtes Lambert Wilson en ce moment au Théâtre Libre à Paris pour le Misanthrope. Est-ce que ça vous dit d'écouter France Gall?
Ah, j'adore France Gall.
Allez, on y va. Voici Résiste sur France Bleu. France Gall sur France Bleu. Résiste. Et Lambert Wilson avec nous sur France Bleu, évidemment. Non, mais je l'ai déjà dit, mais je le répète.
Qui a résisté pendant toutes ces années.
On continue notre voyage dans le temps. C'est dans le rétro.
Dans le rétro.
Bienvenue
dans le rétro.
Attachez votre ceinture.
Déborah Grunwald.
Lambert Wilson, j'imagine que ça vous rappelle le film, on connaît la chanson, dans lequel vous avez joué, là,
bien
ce
sûr.
Titre Résiste.
Oui.
Je crois que c'est juste un peu avant ce film que vous avez arrêté de vous prendre au sérieux, en quelque sorte. Je crois que c'était en Angleterre. Que vous avez découvert l'humour, la distance sur soi-même. C'est arrivé un peu tard à votre goût, il paraît.
Il faut perdre ses inhibitions complètement quand on est acteur. Si on a des inhibitions, on ne peut pas être au meilleur de sa forme et donner le mieux de soi-même au public. Ça veut dire qu'il faut tout lâcher, quoi.
Ça a mis 20 ans pour vous à tout lâcher. Votre premier film et...
Parce que, vous savez, on me proposait des rôles dramatiques, des rôles torturés, des rôles sombres, et j'étais très à l'aise dans ça, donc ça allait bien. Et puis, à un moment donné, je sentais qu'il y avait une partie que je n'exprimais pas, qui était une partie comique et cocasse et un peu ridicule. Et c'est comme si j'étais retourné à l'école en 95, pendant ces 9 mois à Londres, et j'ai observé des grands acteurs, et j'ai un peu compris comment ça fonctionnait, la mécanique de la comédie. Vous savez, moi j'ai l'impression qu'on a en soi plusieurs personnages qui sont là, qui sont en demi-sommeil, et celle-là n'était pas sollicitée. Alors il y a eu l'espèce de mondain excentrique et snob dans Jet Set. Mais ça, c'est des rôles qui font partie, en fait... de mes personnalités multiples, et il fallait les faire sortir.
En fait, vous êtes planqué derrière vos personnages quand même. Parce que ça reste des personnages, après on connaît la chanson, il y a eu Palais Royal, Jet Set justement, c'est des personnages très extravagants.
Parce que j'ai ça aussi, j'ai un côté grand nunuche, crétin, un peu blond quoi, et puis j'ai...
De quoi, dans la vie?
Oui.
Ah ouais?
Mais bien sûr.
Oh non.
Mais totalement. J'ai ça aussi. Moi, je le sens profondément. Et simplement.
Mais ça se voit pas du tout.
Oh, mais il y a encore d'autres couleurs que je n'ai pas encore montrées. Il faut que je suscite des écritures et de l'imagination des metteurs en scène. Les gens me prennent pour un intellectuel, par exemple.
Mais c'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire que l'image que vous renvoyez au public, c'est quelqu'un d'extrêmement élégant.
Oui, non, mais je peux être
même
le contraire totalement.
Précieux parfois.
Oui, oui. Je peux être plutôt paysan. Et les pieds et les mains dans la terre et un côté beaucoup plus rustique qu'on imagine.
Ouais.
J'aime travailler la terre. D'ailleurs, c'est la seule chose que je sache faire dans une maison, c'est m'occuper des plantes et des légumes. Et puis j'ai un côté aussi complètement midinette et complètement superficiel. C'est-à-dire que on n'a pas encore gratté assez dans ça, quoi. Qui peut s'occuper vraiment de choses idiotes et vraiment superficielles, comme quelqu'un qui lirait des magazines du matin au soir, quoi, par exemple. J'ai un côté... Je demande des excuses à la profession de tous les métiers du cheveu, mais j'ai un côté un peu coiffeuse parfois. Je veux dire, je vais pas commencer à m'habiller en femme le soir pour non, pas du tout. C'est ça qui est génial dans mon travail, c'est que le moindre petit fantasme ou la moindre petite différence à l'intérieur de votre psyché va pouvoir prendre des proportions énormes à travers un personnage.
Ouais.
J'ai pas pu faire un rôle qui me plaisait beaucoup dans Le Grand Bain. Je dirais pas lequel. C'était un rôle pour lequel j'aurais pu mettre une partie de ce côté fantasque et un peu crétinoïde que je voudrais exprimer. Et malheureusement, on n'est pas toujours libre.
On va appuyer sur le bouton, Lambert Wilson, allez-y. « 1973, vous avez 15 ans, nous sommes à l'avant-première des Trois Mousquetaires. Votre père vous emmène avec lui, vous y croisez des stars américaines. Faye Dunaway, Raquel Welch, c'est décidé, vous voulez faire du cinéma et devenir Robert Redford. Vous rêvez d'Hollywood, l'aventure américaine vous l'avez tentée hein, avec 5 jours ce printemps-là. Il y a eu Sahara, il y a eu Matrix aussi, Catwoman. Vous en avez été dégoûté. Un monde d'une dureté incroyable, c'est ce que vous dites. Et vous dites que ça vous faisait peur.
J'ai eu du mal à perdre mon trac sur un plateau de cinéma. Tout m'impressionnait, les caméras, l'équipe technique, tout ça c'était vraiment... Bon, j'ai guéri ça. L'Amérique, c'est plus parce que malheureusement en étant français à Los Angeles, c'est une sorte de voie sans issue. Même, je trouve, presque pour tous les acteurs français. On ne nous confie pas des rôles très intéressants parce qu'on est toujours le français. Or, le français, pour les Américains, il doit être... il est très stéréotypé. Il doit être soit très pompeux, snob, très chic, comme une gravure de mode un peu prétentieuse. Ou alors, il doit être super crado et puant, etc. Le côté un peu ce qu'a fait Gérard Depardieu dans certains films. Ils n'arrivent pas à vous donner un rôle normal, entre guillemets, comme ils le feraient avec des acteurs anglais ou des acteurs allemands ou des acteurs suédois.
Mais pourquoi ça? Parce que c'est vrai qu'on est vraiment dans le cliché. Quand il y a un Français qui joue, on est dans le cliché.
Mais parce que nous sommes des clichés, nous, les Français. C'est-à-dire que pour les étrangers, les défauts des Français sont immédiatement identifiables, comme nous-mêmes, nous allons imaginer que les Italiens sont comme ça et que les Espagnols sont comme ci. Pour les Américains, le Français... pue, d'abord, il se lave pas, ça c'est une évidence. Ensuite, il trahit sa femme parce qu'il a des mœurs légères. Et puis, généralement, c'est un traître. Ouais. J'ai du mal avec les valeurs américaines qui sont... Alors, je parle pas des valeurs de Trump, ça c'est encore autre chose. Mais même la valeur très capitaliste ou les voitures, certaines fascinations américaines me laissent totalement indifférent.
On suit un peu le même chemin.
Oui, mais on est aussi quand même très différents. On a absorbé un style de vie américain, mais on a résisté un petit peu. En tout cas, j'y trouve plus mon compte ici.
Lambert Wilson, vous êtes Alceste dans Le Misanthrope en ce moment au Théâtre Libre à Paris. On revient dans un instant sur France Bleu. Il est au Théâtre Libre en ce moment à Paris. Lambert Wilson est notre invité aujourd'hui.
Dans le rétro.
Bienvenue.
Dans le rétro.
Attachez votre ceinture.
Déborah Grunwald.
Lambert Wilson, on va allumer l'autoradio.
Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, des pancartes s'accrochent où l'on lise ces simples mots. Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir. Ici, on t'aime.
1er février 1954, l'abbé Pierre lance un appel pour venir en aide aux sans-abri qui meurent de froid. Vous avez joué le rôle de l'abbé Pierre dans Hiver 54. La misère, c'est quelque chose qui vous atteint profondément. Quand on voit que maintenant, même des gens qui bossent n'ont pas de quoi finir le mois, que certains s'endettent au point de se retrouver à la rue, c'est un constat super inquiétant. J'imagine que ça vous touche en 2019 de voir ce genre de choses.
Bien sûr, la colère de l'abbé me manque. Je pense qu'il serait une voix nécessaire dans le paysage ambiant. Il m'a appris une chose fondamentale, c'est à ne pas fermer les yeux sur la misère. Donc, même si je ne résous pas cette misère, au moins j'ai le courage de la regarder. Et ceux qui sont dans la rue m'attirent plus que ceux qui sont dans la joie et dans la consommation. J'ai tout de suite le regard qui est attiré par ceux qui sont par terre. Je ne résous pas nécessairement complètement leurs problèmes, mais au moins, je les regarde, j'essaie de les aider un petit peu.
C'est difficile de regarder ça, on a honte, on baisse le regard, on est parfois mal à l'aise. Comment on l'assume, ça?
Ben c'est l'abbé qui disait « Vous ne serez pas nécessairement comme moi, mais si vous ouvrez déjà les yeux sur la misère, vous avez fait une grande partie du chemin. » Parce qu'il faut simplement donner aux gens qui n'ont rien déjà la sensation qu'ils existent et qu'ils ne sont pas transparents.
Mais quand on ne peut pas agir derrière, quand juste on les regarde, on leur sourit, on est gêné parce qu'on ne peut rien faire d'autre.
Et pour les gens qui sont dans la rue, ça peut être véritablement comme du miel de recevoir un regard bienveillant déjà. Parce que exister, c'est un droit. Et il m'est arrivé lors d'un court-métrage de me transformer en SDF dans la rue et de faire une improvisation sur un trottoir. J'ai remarqué que ce qui était frappant, c'est que les gens ne me regardaient pas et ne m'accordaient pas leur regard, sauf les enfants et les animaux. Donc ça commence par ça. Après, tout suit naturellement. Mais vous savez, j'ai parlé avec un ami récemment qui a héberger des migrants. Il leur a fait un dîner, et ils ont pu se laver, ils ont dormi, et le lendemain, ils sont repartis. Et bien, il n'était pas satisfait parce qu'il avait l'impression qu'il n'avait rien fait. Bien entendu, il n'a pas changé complètement leur situation. Il a fait ce qu'il pouvait faire. À ce moment-là, je trouve que c'est déjà merveilleux. Il ne faut pas se culpabiliser parce qu'on ne résout pas tout seul ce problème.
À l'hiver 54, il y a une grande vague de solidarité. Est-ce que vous trouvez qu'on est toujours aussi solidaire en 2019?
Je pense qu'en fait, il y a un réflexe de solidarité qui est suscité, titillé par les médias. Les gens sont réactifs. Et en même temps, il y a une sensation d'inquiétude. Je crois que l'homme moderne français a le cœur sur la main et la situation mondiale a complètement changé. Donc, ce même homme ou femme moyen français est inquiet et a sans doute des raisons de l'être. Ça m'émerveille de voir les gens qui œuvrent en tant que bénévoles dans les soupes populaires ou les gens qui apportent des biens comestibles. Moi, ça m'épate.
On va ouvrir le pare-soleil, Lambert Wilson, allez-y. Ah. Trois photos. Marion Cotillard, Leonardo DiCaprio, Mélanie Laurent. Quel est votre point commun avec eux?
Ça me fait plaisir que vous les ayez choisis parce qu'en fait, ce sont trois acteurs qui se sont énormément engagés pour l'écologie. Mélanie Laurent et Marion Cotillard auprès, comme moi, de Greenpeace. Bon, alors, hors catégorie, Leonardo DiCaprio qui, lui, carrément a sa fondation et qui a agi énormément et qui est vraiment un des grands acteurs mondiaux, très respecté par les associations pour son action en matière d'écologie. Voilà, Mélanie a fait un film sur l'environnement qui s'appelle Demain. Marion répond présente très souvent quand on la sollicite.
Ouais, est-ce que justement cet engagement écologique qui peut être important, est-ce que vous pensez que les artistes qui parlent écologie, ça sert la cause?
Ça dépend lesquels. En fait, c'est toujours pareil. Il faut connaître les dossiers. Il faut savoir en parler, il faut pas être uniquement dans l'émotivité, ça énerve le public. Il faut devenir soi-même spécialiste et à ce moment-là, comme on a un accès aux médias par la notoriété, nous sommes une sorte de caisse de résonance nécessaire pour les causes et les associations. J'ai été invité par Greenpeace l'année dernière, en Guyane, pour assister à l'éventuelle destruction d'un écosystème à cause des forages de Total. Ouais. J'en ai fait écho par des interviews, par des prises de parole, etc. Et il y a eu des millions de vues sur le site de Greenpeace. Ça les a aidés, clairement. Ouais. Ce que le public n'aime pas, c'est quand il y a clairement une ambiguïté entre le statut et le style de vie de la vedette et puis ce qu'elle défend, quoi. Il y a eu quelques petits couacs au fil des ans, mais je pense que ces personnalités-là, en tout cas, sont très cohérentes et je les crois totalement sincères.
Merci Lambert Wilson.
C'est fini ?
Oui, déjà. Oh bah ça passe vite, hein ?
Merci, c'était très agréable.
Si vous êtes à Paris ou pas loin dans le secteur, filez au Théâtre Libre voir Le Misanthrope, un grand classique qui nous replonge au XVIIe siècle avec de magnifiques costumes, des acteurs sincères, un humour subtil. Notre invité était Lambert Wilson. L'émission, vous la retrouvez sur francebleu.fr en replay, en podcast. Passez un bon week-end. On se retrouve très vite sur France Bleu. Prenez soin de vous. Salut.